Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour à tous, bienvenue dans un monde où une monnaie règne en maître.
Dollar, Nazana Balar, Kutangana Bar.
Le roi dollar est partout, mais il vacille. La devise américaine de plus en plus contestée, particulièrement lorsque son cours déstabilise des économies ailleurs sur la planète, alourdit le poids de la dette, particulièrement dans les pays les moins développés, pénalisés par leur dépendance et qui au final sont poussés à accepter l'aide internationale, du FMI par exemple. Ce fut le cas très récemment du Ghana. Le dollar au banc des accusés, la colère monte chez les dirigeants de certaines puissances émergentes comme le brésilien Lula.
Chaque nuit, je me demande pourquoi nos pays doivent être liés au dollar pour commercer. Pourquoi ne pouvons-nous pas échanger dans notre propre devise? Et pourquoi n'avons-nous pas l'envie d'innover?
La tentation de plus en plus vive de se tourner vers d'autres monnaies comme le yuan chinois, le dollar monnaie de référence dans les échanges internationaux, attaqué, concurrencé par quelques puissances hostiles, mais le dollar défendu par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, il y a quelques semaines sur CNN.
C'est un outil très efficace. Bien sûr, il y a une volonté de la part de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de trouver une alternative. Mais si le dollar est utilisé comme monnaie mondiale, c'est que les autres devises n'ont pas les mêmes atouts.
The US Treasury market is the deepest and most liquid and safest.
Le marché du Trésor américain est l'actif le plus solide et le plus sûr. Nous avons des marchés de capitaux très profonds et une primauté du droit qui est essentielle dans les transactions entre monnaies. Et nous n'avons vu aucun autre pays qui a les infrastructures de base et les infrastructures institutionnelles qui permettraient à sa monnaie de servir ainsi le monde.
Le dollar est-il vraiment plus sûr que les autres monnaies ou va-t-on vers la fin de son hégémonie et plus généralement de la domination monétaire occidentale? Va-t-on vers un nouvel ordre monétaire, une guerre des monnaies? Sur fond de guerre tout court en Ukraine, quelles autres valeurs pourraient sortir du banc de touche? Vaste sujet qui mérite réflexion avec nos invités que j'accueille sans plus attendre. Bonjour Karl Grécou.
Bonjour.
Économiste au CEPI, le Centre d'études, prospectives et d'information internationale au sein du programme Macroéconomie et Finances internationales. Bienvenue également à Vincent Ponce.
Bonjour Bruno.
Professeur d'économie à la Harvard Business School aux États-Unis et très récemment récompensé pour vos travaux, prix du meilleur jeune économiste 2023 décerné par le journal Le Monde et le Cercle des économistes. On va en parler dans quelques instants. Prix ex aequo, je le précise, avec Julia Cagé, professeure, elle, à Sciences Po. Et puis, un troisième invité en ligne de Vienne, en Autriche, où vit Yves Ekwe-Amaizo. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous mes co-débatteurs et vos auditeurs d'ailleurs.
Vous êtes juriste et économiste togolais, désormais expert indépendant. Vous avez créé un think tank, un cercle de réflexion, Afrocentricity, et vous avez également une société de conseil, notamment pour les entreprises. Et à vous qui appréciez notre émission, toutes les autres sur RFI et peut-être plus particulièrement celle qui concerne l'économie, un rappel utile, la nouvelle application Pure Radio pour écouter ou réécouter à l'audio en podcast nos chroniques. Aujourd'hui, l'économie, Afrique économie, la chronique des matières premières et bien sûr Éco d'ici, Éco d'ailleurs. On vous donne toutes les infos sur notre page Facebook RFI Éco, RFI ECO. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre au quotidien. Bonne émission à toutes et à tous. C'est parti donc avec vous Vincent Ponce, avant de parler de la très riche actualité économique aux États-Unis où vous vivez et vous enseignez. Félicitations pour ce prix du meilleur jeune économiste 2023. Votre spécialité, l'économie politique et la démocratie, plus que jamais liées. On ne peut pas comprendre les mutations de l'économie sans observer les chocs politiques. Et c'est vrai qu'ils ont été nombreux ces dernières années.
Oui, tout à fait. Mon sujet, c'est celui de l'affaiblissement des démocraties qu'on peut constater en France, mais aussi dans le monde entier. Il y a de nombreux symptômes, la baisse de la participation, la montée du vote extrême, du vote populiste, la défiance croissante par rapport aux élus, la multiplication des mouvements sociaux de grande ampleur, comme on l'a vu en France avec les Gilets jaunes ou avec les manifestations contre la réforme des retraites. Évidemment, tous ces phénomènes, qui sont des phénomènes politiques, ont des conséquences évidentes pour les politiques publiques qui sont décidées, pour l'activité et pour la croissance.
Vous dites que l'alternance politique améliore les performances économiques. Place aux jeunes, c'est ça le message ?
Le message, c'est un message qu'on a construit en collectant une base de données avec tous les résultats de toutes les élections présidentielles et législatives dans le monde entier depuis 1945. Et on s'est posé une question toute simple. On a regardé des élections dans lesquelles le président sortant se représente et on s'est demandé qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est réélu ou lorsqu'il est défait. Et on s'est rendu compte qu'en général, remplacer le président sortant ou avoir un nouveau parti qui domine l'Assemblée nationale, par exemple, permet d'améliorer la performance économique du pays, qu'il s'agisse d'une réduction de l'inflation, du taux de chômage ou d'une participation plus forte du pays aux échanges commerciaux.
Yves Ekwueamaizo, vous qui suivez particulièrement la politique en Afrique, ces propos doivent résonner à vos oreilles ?
Ah, tout à fait. Nous sommes en lutte pour cette démocratie qu'on appelle totale ou véritable, vous mettez le mot que vous souhaitez, en Afrique. Et malheureusement, les soutiens ne sont pas venus tout à fait de l'extérieur. On le voit dans plusieurs pays, récemment le Tchad, mais plusieurs autres pays. Et deuxièmement, c'est qu'au-delà de ça, beaucoup de ces personnes qui pourraient mieux gérer ces pays se retrouvent à l'extérieur. Et finalement, n'arrive plus à contribuer à cette démocratie. Et derrière, il faut une puissance économique financière. Et donc le patronat africain qui pourrait servir de levier à finalement aussi, quelque part, disons, baisser la garde.
Vincent Ponce.
Oui, ce qui est en jeu ici, c'est la question du financement des campagnes électorales, finalement. Pour que des nouveaux entrants puissent avoir une chance, puissent se battre à armes égales, il faut qu'ils bénéficient de financement. Et ici, les règles changent beaucoup d'un pays à l'autre. Alors là, on parlait d'Afrique, mais même si on compare, par exemple, les États-Unis et la France, on a des contextes très différents. Aux États-Unis, c'est un petit peu le Far West. C'est-à-dire que si vous regardez la campagne de Biden, lorsqu'il a été élu, il dépense plus de 1 milliard de dollars. En France, on est sur des montants beaucoup, beaucoup plus faibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une limite aux sommes qui peuvent être dépensées par un candidat, 22 millions d'euros pour les finalistes au second tour de la présidentielle. Et en plus de cette limite, il y a un remboursement des dépenses, de 50% des dépenses pour les candidats qui ont plus de 5% des voix. Ce qui signifie que même un candidat d'un nouveau parti, comme Emmanuel Macron en 2017, a des chances, peut concourir contre le président sortant ou contre des candidats de partis qui sont vraiment bien en place.
Emmanuel Macron, qui ne fait pas partie des plus pauvres non plus. Vous allez plus loin, Vincent Ponce. La gérontocratie, on va dire le pouvoir exercé par des personnes très âgées, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas dans certains pays africains. Vous dites que cette gérontocratie pénalise l'économie. Pourquoi ?
La gérontocratie est très inquiétante parce qu'elle introduit un décalage entre les gouvernants et les gouvernés. Si vous avez, comme aux États-Unis, sans doute à l'élection présidentielle de 2024, des candidats qui, s'ils étaient Joe Biden et Donald Trump, ce qui est le scénario le plus probable, auront respectivement 82 ans et 78 ans, leurs préoccupations sur des sujets comme le changement climatique ne sont forcément pas les mêmes que celles d'un électeur de 18 ans ou même de 35 ans. Donc il y a un risque que les politiques qui soient décidées par ces dirigeants, qui sont de plus en plus âgés, parce que les donateurs sont aussi de plus en plus âgés et donc ils ont tendance à favoriser des candidats qui leur ressemblent, il y a un risque que ces politiques ne soient plus tout représentatives des attentes de la population et qu'elles soient en décalage avec les nécessités du pays.
Puisque vous parlez de Joe Biden, son bilan économique, 2 ans après son arrivée au pouvoir, l'emploi va plutôt bien globalement, l'inflation est plutôt stabilisée et pourtant il essuie énormément de critiques.
Alors c'est vrai qu'il y a un décalage aux États-Unis entre la perception de l'économie par la population et les indicateurs fondamentaux. Le taux d'inflation reste élevé à 5%, mais il a beaucoup été réduit grâce à la politique monétaire de la Fed. Le chômage, on est presque sur une situation de plein emploi, on est un tout petit peu au-delà de 3%. Le taux de participation au marché du travail est aussi historiquement élevé. Le PIB est à peu près au niveau auquel on le projetait avant la crise Covid. Donc la reprise suite au Covid a été extraordinairement rapide, beaucoup plus rapide qu'en 2008. Et ça vient en grande partie des choix politiques qui ont été faits par Biden. Donc il est plutôt sur des choix qui ont remporté un succès, même si la population est encore insatisfaite en partie en raison de l'inflation et donc de la baisse du pouvoir d'achat pour certains ménages.
Une politique de fortes dépenses publiques, tout cela sur fond de débats sur le plafond de la dette. Les Républicains critiquent énormément le président pour ses dépenses. Écoutez l'un de leurs leaders, Kevin McCarthy, c'était sur Fox News.
Il propose de dépenser des milliards de dollars supplémentaires, plus d'argent qu'au pic de la pandémie. On ne peut pas se permettre d'emprunter à la Chine, de rester dépendant et d'aggraver l'inflation.
Vincent Ponce, Joe Biden dépense trop d'argent, comme le dit ce leader républicain.
Le sujet, c'est pas tant le montant des dépenses. Le sujet, c'est plutôt cette spécificité institutionnelle américaine selon laquelle il y a deux votes. D'abord, le Congrès vote sur un budget. Ce vote est passé. Et une fois que ce vote est acquis, il y a un second vote en cas de déficit pour relever le niveau de la dette. Et le problème ici, c'est qu'on a maintenant un Congrès qui est une chambre qui est dominée par les Républicains. On entendait Kevin McCarthy, qui est le président de la Chambre, un Républicain, et qui refuse de relever le plafond de la dette et qui utilise cette anomalie institutionnelle pour faire du chantage et pour obtenir des concessions du président démocrate Joe Biden, notamment une réduction des dépenses.
Et si on arrivait au scénario du pire, un défaut de paiement américain, on n'en est pas encore là. Quelles seraient les conséquences à la fois pour l'économie américaine et pour le reste du monde ?
Ça serait des conséquences vraiment désastreuses. On parle d'un scénario qui reste improbable puisqu'il y a eu plusieurs fois par le passé, en 2011, en 2013, des configurations politiques similaires où un président démocrate, Barack Obama, devait négocier avec une chambre républicaine pour relever le plafond de la dette. À la fin, ils avaient trouvé un accord vraiment de la 25e heure. Donc on espère que cet accord aura lieu. S'il n'avait pas lieu, et on parle d'une date qui est rapprochée, puisqu'il y aurait potentiellement un défaut à partir du 1er juin, si cet accord n'avait pas lieu et que les États-Unis faisaient défaut sur la dette, ça serait catastrophique puisque le dollar est la valeur refuge et donc des dollars sont détenus par des fonds privés dans le monde entier et surtout par des banques centrales. Donc ça pourrait provoquer une crise non seulement aux États-Unis mais une panique financière globale.
On va en parler du dollar. Rapidement, Ivekwe Amaizo, vous qui avez aussi vécu et travaillé aux États-Unis, sur les conséquences d'un éventuel défaut de paiement pour le reste de la planète ?
Je partage tout à fait sur une crise financière, mais je vais revenir en arrière sur la notion de plafond. J'ai cru comprendre, on est autour de 31 500 milliards de dollars qu'on veut remonter, mais ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'en remontant le temps, depuis les années 60 à peu près, ce plafond a été relevé plus de 78 fois. Et j'ai fait mon petit calcul, en gros, une fois par an. Donc ça pose la question de problème de fond. Est-ce qu'on est dans une politique keynésianiste, c'est-à-dire qu'on va faire le trou, la dépense, et qu'on ne va jamais équilibrer ? Est-ce qu'on est dans la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire que c'est un pays qui n'arrive plus à équilibrer ses comptes et renvoie sa dette vers le monde extérieur, sous des formes que vous connaissez, soit violentes, soit par des pressions douces ? Et beaucoup plus profondément, est-ce qu'à l'intérieur maintenant des États-Unis, cette histoire de blocage du plafond et l'autoriser à la dernière minute ne consiste pas à, disons, déplacer les groupes de pression vers tel ou tel centre d'intérêt ? Et est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que M. Biden est en train de perdre la main ? Parce que c'est aussi ça qui est plutôt affolant.
On reporte encore et encore la catastrophe. C'est exactement ce que nous disait Jacques Attali, qui était à votre place la semaine dernière dans notre émission. Vincent Ponce, professeur à la Harvard Business School et l'invité d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI, en compagnie de Karl Grécou du CEPI et d'Ivekwe Amaizo, économiste togolais. Nous parlons à présent de la monnaie américaine, le dollar, et des menaces qui le guettent dans le monde.
¿A quién no le gusta la plata? Écho d'ici, écho d'ailleurs,
sur RFI.
Et d'abord, pour bien comprendre l'importance que peut représenter ce dollar dans certains pays, un exemple, rendons-nous en Argentine, pays sud-américain confronté à une très sévère inflation, à une dépréciation de sa monnaie, le peso, au bord même de la dévaluation. Du coup, on cherche des dollars, mais il y a pénurie. Notre correspondant Théo Conscience a rencontré un entrepreneur à Buenos Aires, confronté à ce casse-tête.
Sur la rue Florida, dans le centre de Buenos Aires, impossible de faire 10 mètres sans être interpellé pour faire du change. Au taux officiel fixé par la Banque centrale, un dollar vaut 244 pesos argentins. Mais ici, dans la rue, les changeurs officieux proposent le double, 490 pesos. C'est le dollar blue, illégal mais toléré par les autorités. Ce taux de change parallèle flotte librement en fonction de l'offre et de la demande.
J'ai des pesos qui ne valent rien et le gouvernement ne veut pas me vendre de dollars. La seule solution, c'est d'acheter des dollars blue à 490 pesos. Nous, les Argentins, dès qu'on a de l'argent qui entre sur notre compte, on le sort, car on ne fait pas confiance au système bancaire et on le change en devise étrangère toujours.
Martin Barral tient une boutique de prêt-à-porter sur la rue Florida. Veste, blouson, sac, portefeuille. Ici, on vend des articles en cuir. La matière première est 100% argentine, mais il faut importer des produits pour la traiter. La Banque centrale argentine maintient le dollar officiel à un taux artificiellement bas afin d'éviter que le prix des importations ne s'envole brusquement. Mais pour ne pas perdre tout contact avec la réalité, elle laisse néanmoins le dollar s'apprécier face au peso à un rythme d'environ 6% par mois.
Si tes coûts dépendent du dollar officiel et que celui-ci augmente, tes coûts augmentent en dollars, tous les jours. Alors tous les jours, je dois reprendre la liste des prix pour les augmenter.
En Argentine, l'inflation dépasse actuellement les 108%, un niveau record qui mine encore un peu plus la confiance des Argentins dans la monnaie nationale.
A largo plazo siempre conviene ahorrar en dólares.
Sur le long terme, c'est toujours plus intéressant d'épargner en dollars, explique Mathias, qui préfère ne pas donner son nom de famille.
Los dólares se compran.
Les dollars s'achètent dans les fameuses caves qui sont des officines dans le centre. On y va, on demande quelle est la cotisation du dollar blue ce jour-là, même si on la connaît déjà car elle est publiée dans les journaux, et on achète des dollars contre des pesos.
Si Mathias privilégie ses officines alimentées entre autres par les changeurs officieux de la rue Florida, il existe théoriquement des manières légales d'accéder aux dollars de la Banque centrale pour épargner.
No sirven porque son cupos muy bajos, solamente de 200 dólares por mes.
Ce n'est pas intéressant car il y a une limite de 200 dollars par mois et très peu de gens peuvent y accéder. Par ailleurs, beaucoup de taxes s'ajoutent au taux officiel, donc cela revient presque aussi cher que d'acheter dans une cave où on ne s'expose pas à des contrôles de l'administration fiscale.
Pour préserver ses économies de la dévaluation et du fisc, Mathias épargne donc en dollars et en liquide, comme beaucoup de ses compatriotes. Selon l'économiste Nicolas Gadano, ex-directeur de la Banque centrale, les Argentins conserveraient sous leur matelas et dans leur coffre-fort quelques 200 milliards de dollars, soit 10% des billets verts en circulation dans le monde.
Reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs de Théo Conscience, notre correspondant en Argentine, ce pays qui a même mis en circulation un nouveau billet de 2000 pesos. Cette situation, Carl Grecou, on la retrouve dans de nombreux pays du monde, surtout au sud. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet exemple argentin ?
Alors l'exemple argentin, comme vous le mentionnez, il n'est pas unique, il est répandu un peu partout. D'ailleurs, l'Argentine est coutumière du fait. Déjà au début des années 2000, elle avait eu une grave crise monétaire qui avait entraîné également de l'hyperinflation. Et là, on est en plein cœur, si vous voulez, de la conjonction de deux choses. Un, la dépendance forte au dollar pour tout, pour les échanges, pour des questions de compétitivité, de financement. Et deux, du côté argentin, la mauvaise gestion, un cadre macroéconomique pas suffisamment sain pour attirer les financements, pas suffisamment dynamique pour également engendrer des devises étrangères. Et lorsque... Là, on est en plein cœur justement de l'importance du dollar. Lorsqu'on a des mouvements assez forts du dollar, l'assèchement des flux financiers qui viennent alimenter le dynamisme économique de ces pays-là se retire. Eh bien, on fait face à des problèmes d'inflation qui vont s'aggravant dans la mesure où ces pays-là sont déjà très endettés. Je crois que dans le cas de l'Argentine, l'Argentine est le seul pays qui est endetté, qui est à peu près deux fois le niveau de sa dette maximale auprès du FMI. Et donc la situation est vraiment très compliquée. Et le FMI, comme vous le savez, impose des conditions de solvabilité, donc des programmes d'ajustement qui généralement rajoutent une couche dans la mesure où elles ont un lourd coût social.
Ça fait penser au Liban, à certains pays africains, exactement. Au Venezuela aussi, où le bolivar a perdu énormément de sa valeur.
Exactement. Donc je pense avec le bolivar, la livre libanaise, la livre égyptienne, on a là les trois pires monnaies sur ces deux dernières années qui se sont dépréciées, qui ont perdu à peu près la moitié de leur valeur justement en raison de ces problèmes-là.
Comment on en est arrivé à une telle dépendance au dollar ? On n'a pas prévu ce problème avant ? C'était impossible d'en sortir ?
Ah si, le problème a été vu, il a été anticipé. Déjà en 1944, il avait été anticipé. Les économistes français, notamment Pierre Mendès France, l'avaient signalé ce problème-là. Et même Keynes, justement, proposait une alternative au dollar, donc le banc or, qui était un panier de monnaie hégémonique synthétique, pour justement éviter ces problèmes de forte dépendance à la politique monétaire intérieure, donc du pays émetteur de la monnaie de réserve internationale.
Justement, une petite page d'histoire, Vincent Ponce, vous allez peut-être pouvoir nous aider. 1944, ce sont les accords de Bretton Woods, signés par 44 pays. C'est ça l'acte fondateur de l'hégémonie du dollar ?
Oui, mais à ce moment-là, cette décision ne fait que refléter la puissance économique des États-Unis d'après-guerre, la part du PIB mondial qui est concentrée dans les États-Unis, et donc l'ensemble des pays du monde se mettent d'accord pour que le dollar soit la valeur de référence, le dollar soit indexé sur l'or et l'ensemble des devises soit indexé sur le dollar, donc avec un régime de taux de fixe dans le monde entier. Ce régime est abandonné en 1971 parce que les États-Unis décident de sortir du gold, du nouveau gold standard, mais il reste que même après les années 70, le dollar continue à jouer son rôle de valeur refuge, de monnaie de réserve. C'est concrètement en dollars que se font un grand nombre d'échanges. Par exemple, les achats de pétrole se font en dollars. On l'a vu en Argentine et dans beaucoup d'autres pays, les gens se réfugient vers le dollar parce qu'ils n'ont pas du tout confiance dans la stabilité de la monnaie locale et donc ils ont peur de perdre leur épargne si la valeur de la monnaie locale venait à diminuer. Et donc le dollar a ce rôle où chacun achète des dollars parce que chacun achète des dollars. Et donc on sait que le dollar va garder sa valeur puisque tout le monde fait le même pari. Donc c'est une affaire d'équilibre autoréalisateur. Et le risque aujourd'hui, c'est que si les États-Unis faisaient défaut sur leurs dettes, cet équilibre s'effondre. Et en raison de l'importance du dollar dans les transactions financières et commerciales mondiales, ça donnerait lieu à une crise, potentiellement une crise financière et économique mondiale.
Les transactions financières, les transactions commerciales, Ivekwe Amaizo, et puis on émet de la dette en dollars sur les marchés internationaux. Est-ce que ce n'est pas là le problème principal, le plus crucial ?
Non, qu'on émette la dette ne pose pas de problème, dès lors qu'on peut discuter sur l'utilisation. Le fond du problème, c'est, je prends le cas de l'Argentine que vous avez cité, j'ai pu retrouver quelques chiffres, le dollar américain valait 4 pesos argentins en 2012. Hein. Aujourd'hui, on est dans les 235, 240. D'où vient cette grande dépréciation, dévaluation, voire dévalorisation ? La gouvernance, oui, la corruption, oui, mais il n'y a pas que cela. Il y a donc un vrai problème, tout simplement, de souveraineté de certains États qui ont choisi de s'aligner sur le dollar. Ce qui nous amène d'ailleurs à la deuxième partie de votre question. Les Bretton Woods, ou à la rigueur, on peut comprendre, mais 1971, pour l'Afrique, c'est inacceptable. Pourquoi ? Puisqu'il s'agissait pour les États-Unis en premier lieu, quand ils avaient un déficit, tout simplement, de leur balance des paiements, ben de payer leur dette en or, donc en une monnaie marchandise. Et ils ont unilatéralement accepté, plutôt refusé de payer. Et à partir de là, ce dollar est devenu un dollar flottant, tout le monde se met à flotter, et on ne sait plus trop où est-ce qu'on va. Et donc, vous avez tout à fait bien résumé. Nous qui sommes à l'extérieur et qui emmagasinons ce dollar, que ce soit en Argentine ou ailleurs, avec cette dévaluation, dévalorisation, le côté réserve est en train de disparaître. Je crois comprendre que la Chine tourne autour de 30 à 40% de pertes quasi régulièrement. Et donc, personne ne s'intéresse maintenant à conserver ce dollar papier. Mais à aller vers une monnaie qui est acceptée par tous, donc un équivalent général, type l'or, voire d'autres matières premières.
On va en parler tout à l'heure de ces alternatives. Vincent Ponce, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, bah Valéry Giscard d'Estaing avait parlé du privilège exorbitant du dollar. C'est quoi ce privilège exorbitant? C'est le fait que si vous êtes les États-Unis, vous pouvez vous endetter, c'est-à-dire vous pouvez avoir un déficit commercial et le financer à très faible coût, puisque vous avez des pays qui achètent des dollars, donc le taux d'intérêt sur le dollar est 0% si vous prenez du billet vert. Si vous achetez de la dette américaine, vous avez aussi des taux qui sont faibles par rapport aux taux offerts par d'autres pays. Et donc les États-Unis, puisqu'il y a cet équilibre où chacun demande des dollars, les gens sont, les investisseurs, les banques centrales sont prêtes à acheter des dollars à un taux très faible et les États-Unis peuvent maintenir ce déficit, ce qui est extrêmement étrange. Vous avez un pays qui est le pays le plus riche du monde et qui, d'année en année, a un déficit de sa balance commerciale, donc s'endette alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit des pays pauvres qui puissent s'endetter pour financer leur croissance.
Concurrence déloyale, Karl Grécou, finalement.
Un peu plus que de la concurrence déloyale, c'est un état de la nature, j'ai envie de dire. Le dollar a réussi à s'imposer à la suite de l'effondrement du système de Bretton Woods, hein, période qu'on qualifie de Bretton Woods 2, tellement le dollar a su conserver son importance. Mais j'ai envie de dire, c'est un système qui s'auto-nourrit lui-même, ce qu'on appelle les externalités de réseau. Parce que tout le monde utilise du dollar, alors c'est plus simple de continuer à utiliser du dollar. Pourquoi est-ce que les pays, pour répondre à la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que les pays payent leurs dettes en dollars? Tout simplement en raison, un, de ce qu'on appelle le péché originel. Ils ne peuvent pas s'endetter dans leur monnaie nationale, faute de problèmes de qualité institutionnelle, de crédibilité. Et comme les devises sont issues des échanges, qui sont eux libellés en dollars, eh bien, ils utilisent ce dollar, encore une fois, pour servir leur dette. Donc, on ne peut même pas parler de concurrence, parce qu'une monnaie, au niveau international, c'est avant tout le dollar, et ensuite, éventuellement, des actifs comme l'or ou ce genre de trucs. Même l'euro a un rôle assez limité sur la scène internationale.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Renaud Fort.
Je crois qu'on a bien planté le décor. À présent, posons-nous maintenant des questions sur une éventuelle sortie de l'hégémonie du dollar qui pourrait être provoquée par certaines puissances émergentes. On a commencé à parler de la Chine. Eh bien, nous allons précisément à Pékin avec notre correspondant Stéphane Lagarde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Bruno.
Le Premier ministre russe était en visite il y a quelques jours dans la capitale chinoise. Il y a été question de renforcer les échanges entre les deux pays dans les monnaies nationales, le rouble et surtout le yuan.
Oui, sur les 190 milliards de dollars d'échanges réalisés l'année dernière entre la Chine et la Russie, 70% de ce commerce a été réglé dans ces deux monnaies. Et pour la première fois en février dernier, les volumes de transactions de la monnaie chinoise ont dépassé ceux du billet vert à la bourse de Moscou. Depuis, l'écart n'a fait que s'accentuer. Ce qui est étonnant, vu de Pékin, c'est que jusqu'à présent, les autorités étaient plutôt discrètes ici concernant l'internationalisation de la monnaie chinoise. Et maintenant, eh bien, les médias d'État en parlent régulièrement, encore récemment, à la télévision centrale. De nombreux pays ont commencé à permettre les règlements en renminbi, l'autre nom du yuan, donc. La tendance actuelle est à la dédollarisation, ajoute le présentateur des nouvelles du soir, et on va au contraire vers une multipolarisation des monnaies, fin de citation. Et la télévision d'État dénumérée, en fait, tout s'est accéléré avec l'arrivée du printemps. En février dernier, la banque centrale irakienne autorisait les règlements en yuan pour le commerce avec la Chine. Le 11 mars, la banque industrielle et commerciale du Brésil a réglé sa première transaction en renminbi. Donc là encore, la monnaie chinoise. Fin mars, la banque centrale du Brésil a annoncé que le renminbi avait dépassé l'euro en tant que monnaie de réserve. Le 28 mars, la China National Offshore Oil Corporation et le français Total Energy ont conclu un accord portant sur l'achat de 56 000 tonnes de gaz en renminbi, là aussi. Et puis le 26 avril dernier, le ministre argentin de l'économie a annoncé que l'Argentine cesserait d'utiliser le dollar pour payer ses marchandises en provenance de Chine. Celles-ci, vous l'avez compris, seront donc réglées désormais en yuan.
Stéphane, ce yuan, est-ce qu'il va remplacer le dollar dans tous les échanges avec la Chine à l'avenir?
Alors non, pas pour l'instant. En tout cas, c'est pas systématique et c'est pas forcément ce que souhaite Pékin. On verra dans les 10 ans. Mais en attendant, on a une trentaine de pays, selon les données officielles, donc des données chinoises, qui souhaiteraient passer au yuan pour régler leurs achats en Chine. L'augmentation de la part du yuan dans les transactions internationales, il en sera aussi question lors du prochain sommet des BRICS à Johannesburg, cet été, donc en août. Le groupe des émergents est en train, Bruno, de réfléchir à la faisabilité d'une monnaie commune.
Merci Stéphane Lagarde, notre correspondant à Pékin, pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Ivekoué Amaïso, l'incendie est déclaré?
Tout à fait. Alors, précisons quand même que les matières premières, essentiellement venant d'Afrique, sont bien sûr payées en dollars. et qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont, entre guillemets, une forme d'interdiction de justement de payer dans une autre devise. Et ça pose deux problèmes. Soit vous avez un accord directement avec la Chine, la Russie ou d'autres, et pour telle ou telle matière première, vous arrivez à payer dans la devise chinoise ou russe ou autre. Et derrière, si vous n'y arrivez pas, vous faites de la compensation. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est très important, parce que cette compensation s'auto-renouvelle à la rigueur et finalement fait que vous ouvrez un compte tout simplement au niveau des pays comme la Chine, la Russie et autres, et les transactions arrivent à continuer en dehors de tout le système SWIFT. La notion de multipolarité, je partage tout à fait. Ce qui me pose peut-être un tout petit peu problème, c'est qu'il faut une décision politique. Certains pays africains sont encore dans des accords qui les restreignent, ils ne peuvent pas tout simplement changer, et donc ils essaient de trouver une sorte de façon de contourner le système. On en parlera aussi avec les bitcoins et autres. Et ce qui est plus gênant dans tout ceci, c'est que je ne vois pas si ça favorise une meilleure gouvernance ou une meilleure, disons, équilibre des comptes publics ou de la balance des paiements, notamment des pays les moins influents. Je constate que beaucoup de pays africains, par exemple, n'ont fait qu'augmenter en fait leur dette, ce qui est une critique acceptable venant d'ailleurs des États-Unis.
Karl Grécou, on voit bien que le dollar est une arme économique, c'est aussi une arme diplomatique dans certains cas. Par exemple, dans le cadre du conflit russo-ukrainien, les États-Unis ont utilisé le dollar dans le cadre des sanctions.
Tout à fait. Alors, vous parlez du gel des avoirs de la Russie, qui a, pour le dire, envoyé un mauvais signal, qui a plus ou moins mis le feu aux poudres sur la crédibilité du dollar comme monnaie refuge. Très clairement, les pays du reste du monde ont reçu le message. Du jour au lendemain, le dollar n'apparaît plus comme une monnaie absolument crédible à partir du moment où on n'est pas forcément allié avec les États-Unis. Et donc tout ça concourt un peu, si vous voulez, à l'émergence. En tout cas, ça alimente fortement les prophéties hein, de bipolarisation du système monétaire international, notamment avec le renminbi et le dollar. Mais il faut surtout noter que ces prophéties de fin d'hégémonie du dollar ne sont pas nouvelles. On a eu plusieurs. Dans les années 80, c'était le yen et le Deutsche Mark. Les années 90, 2000, l'euro. Et donc là, avec un surfond de montée en puissance de la Chine, c'est le renminbi.
Là, le contexte géopolitique ajoute à tout ça. Vincent Ponce, est-ce que ça pourrait se retourner finalement contre les États-Unis? Cette politique extrêmement agressive avec le dollar, on le voit par exemple dans le conflit russo-ukrainien, pour l'économie américaine.
Oui, tout à fait. Ce qui peut entamer le rôle de monnaie de réserve du dollar, c'est des décisions d'acteurs institutionnels, comme celles qu'on évoquait, la Chine, d'autres pays. C'est aussi les décisions de millions d'acteurs privés qui aujourd'hui choisissent d'utiliser le dollar, qui se coordonnent sur cette monnaie, mais qui demain, si les États-Unis venaient faire défaut sur leurs dettes, pourraient choisir de se coordonner sur d'autres monnaies, comme la monnaie chinoise ou la monnaie européenne. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se produirait? Il y a un risque pour les États-Unis, qu'on appelle en anglais de « sudden stop », un arrêt soudain du financement de son déficit commercial, ce qui provoquerait une dépréciation de la valeur du dollar, puisque plus personne ne voudrait de dollar, ou en tout cas beaucoup moins de gens qu'aujourd'hui, une augmentation du prix des biens importés par les Américains, et donc les États-Unis seraient forcés de réduire leur déficit commercial, ce qui provoquerait une crise économique, parce qu'en contexte d'inflation très élevée, avec l'augmentation du prix des importations, la Fed devrait aussi augmenter ses taux d'intérêt. Le problème, c'est que la taille de l'économie américaine est telle qu'une crise de ce type-là affecterait non seulement les États-Unis, mais aussi l'ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis qui aujourd'hui vendent par exemple des exportations aux États-Unis et qui perdraient un de leurs marchés principaux.
Le pétrole, par exemple, Ivekoué Amaïso, si l'Arabie Saoudite vendait son pétrole en yuan, ça serait très mauvais pour les Américains?
La décision, à ma connaissance, est déjà prise. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite accepte de payer en yuan. Maintenant, on peut discuter quel est le montant en termes de pourcentage qui va aller vers essentiellement les monnaies chinoises et qu'est-ce qui, entre guillemets, va rester aux États-Unis. Parce que, on l'a dit tout au début, l'Arabie Saoudite, mais plein d'autres pays, auront un parapluie militaire, une sorte de bouclier qui est lié aux États-Unis. Donc, ils ne pourront pas, de toute façon, tout faire 100% avec la Chine ou d'autres pays. Mais sachez que l'Arabie Saoudite se trouve sur la liste des pays qui souhaitent aussi intégrer les BRICS.
Effectivement, les BRICS, Et si on créait une monnaie commune à ces pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud? Écoutons à nouveau Lula, le président brésilien.
Que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforme os países.
Nous avons besoin d'une monnaie qui place les pays dans une situation un peu plus calme. Parce qu'aujourd'hui, un pays a besoin de courir après les dollars pour exporter, alors qu'il pourrait exporter dans sa propre monnaie. Les banques centrales pourraient certainement se charger de cela. Pourquoi une banque comme la Nouvelle Banque de Développement des BRICS ne pourrait-elle pas avoir une monnaie pour financer les échanges entre la Chine et le Brésil ou entre le Brésil et les autres pays des BRICS? Mais c'est difficile. Les gens sont malheureusement habitués à cette dépendance à une monnaie unique.
Parce que tout le monde dépend d'une unique monnaie.
Un nouvel ordre monétaire mondial appelé par le président Lula. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Ponce?
Un nouvel ordre monétaire mondial, oui. Je pense que c'est l'euro. Celui-là, peut-être pas. Il me semble que c'est l'euro qui pourrait jouer le rôle de monnaie de réserve alternative. Il faudrait pour cela que les pays européens émettent davantage d'obligations européennes, ce qu'ils ont commencé à faire pendant la crise Covid. J'ai un peu des doutes sur le fait que tous les BRICS pourraient avoir une monnaie commune, parce que ce que ça signifie concrètement, c'est d'avoir des taux de change fixes entre tous ces pays. Or, ils font face à des fluctuations économiques très différentes. Et donc, je vois mal comment est-ce qu'ils pourraient s'accorder sur un taux de change fixe sans jamais avoir de possibilité de dévaluer leur monnaie
un yuan étroitement contrôlé par le pouvoir chinois, par exemple.
Pour l'instant, la Chine n'a pas les institutions qui sont nécessaires pour inspirer la confiance aux investisseurs privés du monde entier pour qu'ils substituent le yuan au dollar. Il me semble que l'euro est déjà utilisé par beaucoup de banques centrales et qu'il y a vraiment un rôle à jouer par les Européens ici pour sortir de la dépendance au dollar.
Un nouvel ordre monétaire dans le monde? Point d'interrogation. Éco d'ici, éco d'ailleurs, avec Vincent Ponce, Karl Grécou, Yves Coué à Maïso. Évoquons plus précisément les enjeux sur le continent africain.
Dollar. Dollar, nazana balar, kutanga na bar, viano, balobi dollar ezana biano na mituna to basi, na mituna basi, basusu balobi esa seule solution na problème ba couple. Eh ouais, je sais que nazale mais nazana cash, nazana e mapo nazana car, papanzanga sango nazaba fier, nalata kaka kabila ma cher, balobi nazana basi na droite, balobi nazana basi na gauche.
Les Congolais de MPR, chanson sur le dollar, la monnaie américaine, la question monétaire en général, sujet sensible sur le continent où là aussi beaucoup de monnaies nationales souffrent ces temps-ci. On parlait justement il y a quelques semaines dans une précédente émission du franc congolais. Allons en Égypte où la livre a subi une forte chute. On cherche obstinément, là encore, à se procurer le billet vert. Reportage de notre correspondante au Caire, Alice Moreno.
Dans l'un des bureaux de change du centre-ville du Caire, les clients se font rares. Salah, 60 ans, vient d'y passer une petite minute seulement et quitte déjà les lieux, bredouille et agacé.
Il n'y a plus de dollars sur le marché. L'État n'en a pas. Il y a une énorme crise du dollar. Il n'en reste plus un seul.
Bien sûr qu'il reste des dollars dans les caisses de l'État, mais les réserves diminuent. Un peu plus de 34 milliards aujourd'hui, selon la Banque centrale égyptienne, contre 41 milliards début 2022. Alors les bureaux de change limitent la délivrance de billets verts.
Ils vous demandent des justificatifs et ça peut vous prendre par exemple 10 à 15 ans pour les obtenir. Ils vous demandent d'apporter toutes sortes de papiers officiels. Et si finalement, vous les apportez, vous serez quand même reçu avec un « désolé, aucun dollar n'est disponible ».
Pour contourner les restrictions, de plus en plus d'Égyptiens s'en remettent au marché noir du dollar, comme Esra, une jeune traductrice qui est en partie rémunérée en devises étrangères.
So I get bank transferred to my USD bank account.
Je touche les virements en dollars sur mon compte en banque, puis je sors mon argent de la banque et je les revends illégalement au marché noir. C'est juste une communauté de gens qui ont besoin de dollars, qui veulent épargner dans cette devise pour ne pas subir la prochaine dévaluation.
Selon elle, le dollar s'échange jusqu'à 38 livres égyptiennes au marché noir, contre un peu plus de 30 livres au taux officiel, une différence qui risque de pousser à une nouvelle dévaluation. Wael Gamal est économiste et l'un des responsables de l'ONG Initiative égyptienne pour les droits de la personne.
People
Bien sûr que les gens essaient de protéger leur épargne, ça aura forcément un impact négatif sur la macroéconomie. Mais ils essaient de protéger leur argent, sinon ils y perdent. En gros, si vous épargnez en livres égyptiennes, vous perdez.
Outre le recours au marché noir qu'il comprend mais déplore, l'économiste souligne des investissements massifs dans l'or ou encore dans l'immobilier. Pour ceux qui peuvent encore se le permettre, l'urgence, c'est donc transformer la livre en billet vert ou en n'importe quoi d'autre, pourvu que ça ne perde pas de sa valeur. Alice Moreno, Le Caire, RFI.
Sauf qui peut, le marché noir, Karl Grécou du CEPI, spécialiste en finance internationale, et la crainte affichée d'une dévaluation. C'est vraiment le chiffon rouge, ça, la dévaluation d'une monnaie?
Alors la dévaluation a un effet traumatique, un effet psychologique très très fort. Hein, parce qu'il faut savoir qu'une dévaluation, généralement, s'accompagne d'un fort coût social, d'une inflation assez forte, et donc c'est vraiment un appauvrissement considérable des populations. Et donc dévaluation et dépréciation, comme c'est le cas en Égypte, ça fait vraiment peur.
Ivekwe Maïso, le Ghana, qui était en grande difficulté, son Sidi a perdu énormément de sa valeur, a dû finalement, face au poids de la dette, faire appel au Fonds monétaire international. Le Sidi, d'ailleurs, est immédiatement remonté.
Oui, tout à fait. Juste un point sur l'Égypte, quand même. Il y a une réduction des réserves, mais beaucoup plus grave. On a parlé de dévaluation. Qu'elle soit, disons, institutionnalisée ou officielle, oui, mais la réalité, c'est qu'il y a 10 ans, un dollar valait, je crois, autour de 18-20. Aujourd'hui, on parle de 30. Donc cette dévaluation, en fait, elle est là. Et quand on va vers le Sidi ou le Naira ou toutes ces monnaies africaines qui sont adossées au dollar, donc on revient à notre ami dollar, on s'aperçoit que systématiquement, sur la longue durée, 10, 20, 30 ans, ben, il ne fait que perdre régulièrement de la valeur. Donc il y a un problème de fond. Bien sûr, il y a le côté de la gouvernance, la corruption, etc. Pour le Ghana spécifique que vous venez de citer, quand le président ghanéen est arrivé au pouvoir, je croyais que l'essentiel de son discours était de montrer justement qu'il pouvait se passer du Fonds monétaire international. Alors que deuxième mandat, patatrac, il est en crise, il a annoncé lui-même, il y a un problème de fond dans la gouvernance. Quand on prend tout ce qui permet les recettes au niveau macroéconomique du Ghana, et l'essentiel en tout cas, et qu'on les privatise, et que cette privatisation fait que ces recettes qui rentraient dans les caisses de l'État, et donc soutenaient tout le système social, a disparu, y compris le pétrole, et l'or, le diamant avec d'ailleurs, ça pose un problème. Alors on me dit que ça a remonté aujourd'hui pour le Fonds monétaire international. Écoutez, les fonds monétaires, j'ai dit toujours, ils font des ajustements conjoncturels à répétition, et non pas structurels justement. Donc ça ne devrait pas durer.
Karl Grécou, un commentaire sur ce cas ghanéen.
Oui, le cas ghanéen comme le cas égyptien, encore une fois, touche du doigt les problèmes des pays en développement, des petites économies émergentes, qui est le problème du financement ou de la forte dépendance au reste du monde. Alors, c'est le cas pour l'Égypte, par exemple, de l'adossement au dollar, mais ça aurait pu être une autre monnaie. L'Égypte est très endettée, elle a une exposition au reste du monde très importante, elle n'a pas d'autosuffisance alimentaire, avec le coût de l'énergie qui ont considérablement augmenté avec la crise ukrainienne, naturellement. Ça se transmet par une inflation qui est de l'ordre de 40% aujourd'hui en Égypte. Et donc une paupérisation significative de la population. Mais on retrouve à peu près la même chose dans tous les pays d'Afrique qui sont exposés au même risque.
Tout ça, c'est un plaidoyer pour le maintien du franc CFA. Alors là, peut-être pas exactement comme il est, mais en tout cas, ce système-là. Alors là, cette stabilité qu'offre le franc CFA.
Alors, je suis des économistes qui pensent que il faut, si vous voulez, séparer la dimension politique. Je sais que c'est difficile, mais il faut séparer la dimension politique dans un premier temps de la dimension économique pour mettre les choses à plat d'abord d'un point de vue économique et ensuite intégrer la dimension politique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que le projet en zone CFA, donc en Afrique de l'Ouest, CDAO, le projet n'est pas très clair. On a deux blocs de pays, les pays UMOA qui sont adossés à l'euro, et les autres pays, avec le Ghana, le Nigeria, qui ont leur propre monnaie. L'idée initiale, qui remonte aux années 70, c'était de faire une monnaie commune, donc appelée l'écho. Il y a eu quelques avancées fin 2019, avec un écho, on va dire version Macron-Ouattara, qui consistait à faire passer les pays de l'UMOA sur l'écho, et ensuite qui intégrerait progressivement les autres pays. Donc c'est une proposition qui n'a pas été reçue par les autres pays de l'UMOA. Toutes les théories nous disent que lorsqu'on a une monnaie commune, l'intérêt principal, c'est l'intensification des échanges commerciaux, l'intensification des échanges financiers. Mais pour avoir cette intensification des échanges, il faut avoir une base industrielle. Il faut pouvoir produire, échanger des biens qui nous intéressent mutuellement. Le fait est que les pays de la zone CFA, les pays de la CEDEAO sont tous spécialisés dans des matières premières qui ne peuvent pas transformer. Mmh. Il faut une base industrielle, sinon donc ça ne sert à rien.
Les conditions n'étaient pas réunies.
Les conditions n'étaient pas réunies. Et comme les conditions ne sont pas réunies pour en tirer les bénéfices, naturellement, ils supportent le coût. Et le coût, c'est la perte d'autonomie de la politique monétaire. Et donc, ça se traduit concrètement par des taux d'intérêt très élevés qui découragent quasiment l'investissement dans ces pays-là. Et donc, ils ne sont pas de nature, si vous voulez, à mettre ces pays-là sur la voie d'une industrialisation.
Mmh. Mais sur la stabilité monétaire qu'a offert tout de même le franc CFA dans ces mois tourmentés.
Alors oui, bien sûr, ça dépend de du moment où on regarde. Par moment, le CFA, c'est une stabilité dans, on va dire, des résultats pas si bons que ça, mais quand même une stabilité. Donc en moyenne, une stabilité. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'objectif pour la monnaie pensée à l'échelle de la CEDEAO? Je ne pense pas. Mmh. Mais je pense surtout que le problème, c'est le manque de vision, c'est le manque d'objectif, le manque de stratégie de développement. Quelle monnaie correspond à leur stratégie de développement? Et pour l'instant, j'attends toujours de voir la stratégie de développement et définir la monnaie qui va avec.
Yves Ekwe Amaizo, sans entrer trop dans les détails, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Je vais la compléter. Je vais d'abord commencer par dire que la Mauritanie, qui faisait partie de la zone CEDEAO, ils étaient à 16, ils sont passés à 15 maintenant, a quitté la zone franc, c'est-à-dire le franc CFA, et s'en porte tout à fait bien. Elle subit les mêmes petites dévaluations dont on a parlé tout à l'heure, mais elle a quand même quitté. Donc l'argument de dire qu'il fallait que tout l'environnement industriel se mette en place avant de changer de type de monnaie n'est pas recevable. Qu'il n'y ait pas de vision, ça aussi je ne prends pas pour une raison toute simple. Le problème du franc CFA, c'est la convertibilité. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la situation de la France de Vichy, qui doit d'abord demander l'autorisation à l'Allemagne pour pouvoir acheter ses biens et ses marchandises au plan international. Et en même temps, une partie de ses recettes doit retourner en Allemagne. Et c'est pour ça que beaucoup d'Africains, en tout cas dans cet espace-là, souhaitent d'abord un changement de fond, en tout cas supprimer la convertibilité qui passe par le Trésor français. Pour être très clair, je travaille avec le patronat africain, beaucoup de patrons me disent une chose toute simple, je veux commander des équipements justement pour l'industrialisation de mon usine XYZ, je dois demander l'autorisation en fait indirecte par la Banque centrale qui elle-même finalement demande au Trésor français. Et la réalité, si vous n'achetez pas français ou européen, bah écoutez, ça traîne ou vous avez carrément un non. Et vous connaissez le système judiciaire africain, il ne fonctionne pas tout à fait bien. Ça, c'est pour le premier point. Il y a un deuxième point, rapidement là-dessus, qui est très important, c'est que la notion qui a été proposée, c'est pas, on parle de monnaie unique, mais il y a monnaie commune, et derrière, on veut des paniers de monnaie. Et donc, certains de ces pays, pour la plupart francophones, ont une interdiction, il y a des accords secrets avec la France, des interdictions tout simplement, d'aller chercher ailleurs. D'où les pays qui cherchent maintenant à contourner tout ceci. Et enfin, la France, quand elle a pris ces pays, c'était deux grandes régions, centrale, ouest, essentiellement. Et elle a démantelé la notion de grand ensemble dans lequel on peut justement faire l'intensification des échanges. Et cette intensification n'a plus lieu. C'est quand vous passez de la zone France CFA, Afrique centrale vers Afrique de l'Ouest, mais c'est le parcours de combattants sans penser aux commissions que vous devez payer. En fait, on a empêché justement ce qu'on appelle nous l'intégration régionale et l'intégration monétaire.
Vincent Ponce, vu des États-Unis, ce lien dans ce débat sur le franc CFA en Afrique, ce lien entre les aspects certes économique, mais aussi extrêmement politique, voire géopolitique. Ça doit vous intéresser, j'imagine.
Oui, tout à fait. Et même si on prend encore un peu de recul par rapport à ce débat qu'on avait sur l'hégémonie du dollar, on a parlé des conséquences économiques qu'aurait une perte du rôle du dollar comme monnaie de réserve. Il y a aussi des conséquences politiques très fortes, parce que ce qui est en jeu ici, c'est l'hégémonie politique des États-Unis, le rôle des États-Unis comme le leader de l'ordre libéral mondial. Si on fait un peu d'histoire et qu'on revient aux périodes de transition hégémonique, la dernière, c'était celle de l'entre-deux-guerres, où le Royaume-Uni perd son rôle de puissance hégémonique. Ce n'est pas une période très heureuse. Donc, comme on dit en anglais, be careful what you wish for. Faites attention à ce que vous souhaitez. Il est important de songer à un nouvel ordre mondial, mais il faut savoir aussi quels en sont les risques.
On termine notre débat entre Karl Grécou, Yves Ekwe Amaizo et Vincent Ponce. On parle des moyens d'échange alternatifs.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Oui, parce que la Banque centrale du Zimbabwe a décidé très récemment d'émettre des tokens, des jetons adossés sur l'or. Autre initiative venue de République centrafricaine qui veut tokeniser ses ressources naturelles. Tout cela pour faciliter les investissements, accroître, dit-on à Bangui, la transparence des échanges. Ce sont des pistes valables selon vous, Yves Kouamaïso ?
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on veut revenir, en tout cas les pays africains qui sont conscients des enjeux de puissance et de souveraineté, on veut revenir à quelque chose de stable. Donc, on retourne à l'or, surtout que ces pays en possèdent. Et vous parlez du Zimbabwe, ça va être une des grandes réserves, l'or et le diamant, peut-être même d'autres matières premières. Donc, première chose, le retour à quelque chose de stable, accepté en tant qu'équivalent général, entre un certain nombre de partenaires, ce qui veut dire pas tout le monde. Parce que cette obligation va obliger les pays comme les États-Unis, dont on a parlé, de payer en or. Ça pose donc un problème de fond. Deuxième chose, cet or, c'est lourd. Donc si on peut le tokeniser, c'est-à-dire en faire des représentations sous forme digitale et les faire circuler, écoutez, on est dans la monnaie numérique. Maintenant, je suis d'accord avec vous, les infrastructures ne sont pas encore là, tout le système du blockchain, mais ça va se faire et ça va se faire avec des partenaires. C'est pour ça qu'un certain nombre de pays, vous avez cité la Centrafrique, mais il n'y a pas que Zimbabwe, sont en train de discuter dans ce qu'on appelle l'alliance du BRICS, justement avec ces pays. Il y a l'Inde, il y a la Russie, il y a la Chine et peut-être même d'autres qui vont pousser vers cela. Et ça peut permettre au fond de faire en sorte que cette transition hégémonique dont on parle, se fasse une base de compétition et aussi de démocratie quelque part. Parce que chaque pays doit pouvoir choisir avec qui il souhaite fonctionner. Et un dernier point très important, la plupart de ces pays africains, je constatais aussi qu'il y a une sorte de transfert ou transition de leur, disons, de leur commerce qui va de moins en moins États-Unis et Europe et qui va de plus en plus vers l'Asie, demain matin avec le Brésil. Et du coup, la monnaie va s'ajuster en fonction de là où on fait le plus de commerce et si possible équitable.
Karl Grécou, est-ce que l'or pourrait donner davantage confiance, pourrait stabiliser, on va dire, le système monétaire et remplacer, pourquoi pas, dans des transactions financières internationales, le dollar ?
Alors, à coup sûr, l'or, c'est la valeur refuge par excellence. Hein. C'est le bien qui est accepté par tout le monde.
Pour l'instant, pour de l'épargne.
Dans toute l'humanité, voilà. Donc, il y a différentes dynamiques en œuvre, notamment le Ghana qui propose de payer ses importations d'hydrocarbures en or. Donc, plusieurs dynamiques, la question des tokens au Zimbabwe. Mais s'il y a un point en particulier qui attire moins mon attention, c'est le changement de paradigme dans la gestion de la politique monétaire chinoise, notamment. La Chine ouvre énormément de lignes de swap avec les pays africains.
Lignes de swap.
Les lignes d'échange de monnaie. Mais elle ouvre uniquement ces lignes de swap pour les transactions avec la Chine. Et la Chine, c'est maintenant le plus gros partenaire commercial au monde. Et c'est encore plus important pour les pays d'Afrique. Et donc, cette ouverture de lignes de swap va in fine conduire à une stabilisation monétaire vis-à-vis de la Chine, qui va alimenter, si vous voulez, la montée en puissance du yuan dans le système monétaire international.
L'évolution vers les crypto-actifs, les crypto-monnaies, contourner justement cet adossement du dollar américain ou de l'euro à des monnaies, par exemple, en Afrique, c'est un espoir ?
Alors, la crypto-monnaie, il y a beaucoup de fantasmes autour. Personnellement, je pense que ça reste toujours, si vous voulez, sous le coup de l'extraterritorialité du droit américain. Et donc, je pense qu'à tout moment, les États-Unis peuvent décider d'arrêter le tout. D'ailleurs, la Chine a fait tout pour interdire les crypto-monnaies, dans la mesure où ça pose un certain nombre de questions d'un point de vue macroéconomique. Mais il y a toujours un bon espoir que ça se permette justement de se passer du dollar dans les transactions.
Yves Kouamaïso, pour conclure sur ce sujet.
Alors, pour conclure, séparons bien crypto-actifs et crypto-monnaies. Donc, il s'agit de l'or digitalisé ou le diamant digitalisé. Donc on est dans quelque chose de vraiment nouveau, qu'on n'a pas vu tout à fait par le passé. Premier élément. Deuxième chose, vous avez parlé, on n'a pas répondu à la question de la transparence. Là, on peut discuter. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Du coup, si vous rentrez dans ce qu'on appelle, nous, les blockchains, et ce sont des réseaux fermés. Et ces réseaux fermés, les membres sont tout à fait au courant, mais ceux qui ne sont pas membres, ils ne sont pas au courant. Ce qui veut dire que beaucoup de choses peuvent se passer directement, sans que, entre guillemets, un gendarme du monde, États-Unis ou autre, puisse mettre son nez dans ce qui se passe. C'est en tout cas la stratégie de la Centrafrique actuellement. Et ça a l'air de fonctionner tout à fait bien. Et c'est pour ça que dans le BRICS Plus, qui est en train de s'élargir, justement, beaucoup veulent opter pour cela. Et ça va se faire, et je pense qu'on aura une sorte de transition, de monde parallèle qui va évoluer avec les crypto-actifs. Par contre, je ne suis pas tout à fait soutien ce qu'on appelle tout simplement les monnaies, en crypto-monnaies en tant que telles, puisque vous connaissez la volatilité de tout ceci.
Monnaie, matière première, économie, politique, géopolitique, je crois qu'on a fait le tour. Il est temps de remercier nos invités. I need a dollar, c'était Aloe Black en 2010. Merci à vous Vincent Ponce.
Merci beaucoup Bruno.
Professeur à Harvard et donc prix du meilleur jeune économiste 2023, décerné par le journal Le Monde et par le Cercle des économistes, co-lauréat avec Julia Cagé qui, elle, travaille sur quel sujet exactement ?
Elle travaille aussi sur l'économie politique. Elle s'intéresse notamment à la question des médias et du financement de la vie politique.
Et vous rejoignez donc Thomas Piketty, Esther Duflo ou encore Gabriel Zucman avec qui nous étions il y a très peu de temps dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Merci également à Karl Grécou, chercheur au CEPI.
Merci à vous.
Et à Yves Ekwe Amaizo du think tank Afrocentricity. On vous met le lien sur la page d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.fr.
Merci.
La semaine prochaine, nous serons à Abidjan, où se prépare l'Africa CEO Forum, le grand rendez-vous annuel de l'économie africaine, avec nos partenaires de Jeune Afrique et ma nouvelle coéquipière Aurélie Mbida pour un grand invité de l'économie, chef d'entreprise, personnalité politique et l'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire. Suspense. Plus de détails dans les prochains jours sur notre page Facebook RFI Echo. D'ici là, bonne journée ou bonne soirée et surtout, portez-vous bien.
D'ici, Écho d'ailleurs, vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.